talmudique. Dans le tête-à-tête de Platon, à l'occasion d'une digression sur le difficile statut du philosophe dans la cité, Socrate relate une anecdote devenue célèbre, celle de Thalès contemplant les astres et tombant dans un puits, suscitant le rire d'une servante Thrace. Ces quelques lignes, dont la postérité philosophique est considérable, nous invitent à réfléchir sur la philosophie qui, tout en demeurant liée à un projet théorique, doit aussi trouver une vocation politique. Philosopher, c'est opérer un retour aux choses mêmes, disait Husserl, un retour à la réalité concrète et politique du monde. Notre époque l'exige de nous. Mais qu'est-ce que les philosophes et les penseurs peuvent amener à la question du politique? Ricoeur en donne une formulation éblouissante. Nous découvrons que ce dont manquent le plus les hommes, c'est de justice, certes, d'amour sûrement, mais plus encore de signification. Dès lors, la crise de notre temps est peut-être non seulement une crise économique qui prend sa source dans la question du pouvoir d'achat, de la justice fiscale, mais aussi une crise du sens, de la culture et des humanités. J'aime à me souvenir que le mot hébreu qui signifie la crise, shever, signifie à la fois le blé, c'est la dimension économique, mais signifie aussi l'interprétation, dans l'expression « chalom veshivro », un rêve et son interprétation, ce qui est la dimension du sens. Shever, la crise se rapproche aussi des verbes savar et siver, une racine qui s'écrit exactement de la même façon et signifie « penser, examiner, attendre et espérer ». Une manière sans doute pour l'hébreu de dire que la crise peut se surmonter par l'espérance que donne la pensée et une certaine manière de voir, de percevoir le monde qui donne ou redonne sens à notre existence. Mais d'où vient le sens? Préexiste-t-il dans les choses, dans le monde et dans les hommes, et suffit-il dès lors de posséder un certain regard pour le dévoiler ou qu'il se révèle? Ou bien s'agit-il d'un long et patient travail de recherche, d'étude, d'analyse, de partage, d'éducation? Le débat est ancien, mais l'urgence de notre temps mérite que l'on réouvre l'enquête. Marc-Raphaël Guedj, bonjour.
Bonjour.
Marc-Raphaël Guedj, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation que nous avons commencée la semaine dernière autour des droits de l'homme. L'homme que nous interrogeons dans l'émission d'aujourd'hui à partir de son humanité, l'humanité d'une créature de sens, d'un homme dans le monde, d'un homme qui recherche le sens, qui a besoin de sens, de signification. Comment abordez-vous cette question du sens, du monde et de l'homme, des liens entre l'homme et le monde? Comment, Marc-Raphaël Guedj, les textes de la tradition que vous étudiez, enseignez et aimez commenter, vous aident à comprendre cette question et à y répondre?
Eh bien, avant de répondre à partir des textes de la tradition, j'ai en tête cette quête de Camus. Camus parlait de l'absurde. Mais l'absurde n'est ni dans le monde ni dans l'homme. L'absurde est dans la relation entre le monde et l'homme. L'homme a besoin de sens, a une fin inextinguible de sens. Et il adresse sa quête au monde. Et le monde est silencieux. Le monde répond par un silence assourdissant. Il est intéressant de noter que Camus n'a pas adressé d'emblée sa quête de sens aux philosophies, aux traditions religieuses, aux spiritualités. Il a d'abord adressé cette quête au monde. Il attendait une réponse du monde. Et je trouve ça d'une extrême maturité. Tout se passe comme si Camus attendait que le monde, qu'il y ait une transcendance du monde, que le monde soit le lieu d'une révélation. Et le monde est muet. Et c'est alors qu'il va, à travers la révolte, à travers ses engagements, à travers sa quête personnelle, donner sens à ce qui n'a pas de sens. Et en lisant certains textes de la tradition, j'ai été très touché, parce que j'avais l'impression que les maîtres de la tradition juive avaient lu Camus. Je vais vous donner un exemple. Le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, un des grands maîtres du chassidisme, dans son livre Récis et Laïla, cite dans le traité talmudique de Berachot, traité qui traite des bénédictions, ce texte qui dit « Kol ha'olam kulo lo nivra ela letzevet laze ». Le monde n'a été créé que pour servir d'écrin d'intimité à l'homme. En fin de compte, ce que je recherche, c'est l'intimité avec le monde. Et le Rabbi Tzadok HaKohen continue et dit « Mais nous sommes dans la situation de celui qui marche seul dans le monde, qui est travaillé, inquiété par cette solitude ». Et il est dit dans le Talmud, Amealech Yichidi, Yasok Batorah, celui qui se sent cheminant seul, qu'il étudie Torah. Et alors, en quoi ça répond. Mais la Torah, c'est l'âme du monde. La Torah, c'est l'architecture intérieure du monde. Il y a un fameux midrash qui dit que « Istakel b'oraita ubara alma » Dieu a regardé la Torah et s'inspirant de la Torah, il a créé le monde. Tout se passe comme si la Torah, c'était l'intériorité du monde. Et donc, quand j'étudie Torah, je n'étudie pas Torah pour étudier Torah, mais j'étudie Torah pour ressentir l'intimité avec le monde. Voilà ce que dit Rabbeinu Tzadok HaKohen de Lublin. Tout se passe comme s'il avait lu Camus. C'est ce que recherchait Camus, l'intimité avec le monde. Maintenant, il est intéressant de noter que pour ce faire, il faut étudier Torah. Et qu'est-ce que la Torah vient faire dans cette histoire? Alors, il y a un autre midrash que je trouve très beau, qui dit comment Abraham, le père des croyants, a déduit le divin du monde. Et le midrash nous dit que Abraham ra bira doleket, il a vu un château embrasé, le monde comme un château embrasé. Il a dit, mais est-ce que ce monde, ce château n'a pas de maître? C'est alors que le maître se révéla à lui, lui a dit, je suis le maître du château. Alors on pourrait comprendre que le château embrasé, c'est la violence dans le monde. D'où la question inquiète d'Abraham. Mais un des grands maîtres du chassidisme, le rabbi de Gour, disait, le château embrasé, c'est la flamme qui traverse le monde. C'est pas la flamme destructrice, c'est la flamme du monde. Tout se passe comme si le monde adressait sa flamme à sa source, à son créateur. Abraham voit un monde qui s'élance vers sa source, un monde qui aspire à sa source, qui veut se fondre dans sa source. Et cet embrasement me rappelle les épis de blé dans certains tableaux de Van Gogh, où Van Gogh voyait un monde embrasé, un monde qui s'élance, un monde traversé par une flamme. Et Abraham a déduit le créateur de la flamme de la création. Et ça n'était pas une réflexion philosophique, c'était un regard existentiel. Voilà un texte. C'est-à-dire, et c'est un rêve, moi, pour moi c'est mon rêve le plus absolu. Si je pouvais déduire la Torah du monde, quand je suis face à un paysage extraordinaire, mais j'ai l'impression que toute la Torah est là. C'est ma subjectivité, c'est un regard personnel, mais c'est mon regard, et je l'assume. Par ailleurs, Abraham, on dit qu'il a l'amad et kol haTorah me'atzmo. Il a étudié toute la Torah à partir de son intériorité, avant même la révélation. Il a découvert la Torah en scrutant dans son intériorité. On pourrait dire qu'Abraham, c'est l'homme livre. C'est l'homme qui, lui, est porteur de cette révélation qui va se dévoiler plus tard. Alors Abraham découvre la Torah, ou en tous les cas, le créateur à partir du monde. Et Abraham découvre la Torah à partir de l'intériorité humaine. Et on retrouve cette dialectique à partir du fameux verset « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir ». Et le Midrash de demander comment arriver à l'amour de Dieu. Deux réponses. Celle du Midrash d'abord, qui dit que arriver à l'amour de Dieu par l'étude de la Torah, comme il est dit dans les versets suivants. C'est-à-dire, si j'étudie Torah, je me relie au désir du Créateur, je m'unifie au désir du Créateur, ce qu'il désire pour moi, pour l'homme. En m'unifiant à son désir, j'arrive à l'aimer. Deuxième lecture, c'est de Maïmonide, beaucoup plus tard, qui dit comment arriver à l'amour? Arriver à l'amour. Deuxième lecture, celle de Maïmonide, qui pose la question, mais comment arriver à l'amour? Et Maïmonide répond, par la beauté du monde, par l'harmonie du monde, par la sagesse inscrite dans le monde, par l'intelligence, la rationalité qui traverse le monde. Cette intelligence du monde, cette beauté du monde, cette harmonie du monde suscite l'amour. J'ai envie de dire, qui croire, le Midrash ou Maïmonide? En vérité, peut-être que les deux réponses se fécondent l'une l'autre. Le Midrash me disant que pour arriver à l'amour, il faut étudier, on sait qu'étudier, c'est un cheminement infini, c'est une lecture infinie, c'est une interprétation infinie. C'est ne pas laisser la parole de la Torah s'enfermer dans un dit, mais dans un dire infini, comme dit Lévinas. De ce fait, quand je regarde le monde, je ne risque pas d'enfermer mon regard dans la description du phénomène, dans la description de la causalité. Je suis capable de saisir cet infini qui caresse le fini du monde, qui caresse les phénomènes, mais qui ne se résume pas au phénomène. C'est parce que j'étudie le monde ainsi. Et c'est peut-être parce que je vois le monde ainsi que mon étude, quand je reviens au Beit HaMidrash, quand je reviens dans la maison d'interprétation, dans la maison de l'étude, c'est alors que mon étude est chaleureuse, que mon étude est habitée, que mon étude n'est pas simplement intellectuelle, n'est pas sèche, parce qu'elle est habitée, elle est fécondée par mon regard sur le monde. Deux regards qui se fécondent l'un l'autre. Et donc, à la question « le sens dans le monde ou dans l'homme », c'est une dialectique infinie, c'est une fécondation réciproque.
Et est-ce que cela vous amène un rapport différent au monde, aujourd'hui où nous sommes engagés dans un combat pour l'écologie? Est-ce que cette perspective vous invite à ce que on pourrait appeler, et je crois que l'expression est de vous, une écologie spirituelle, Marc-Raphaël Gage?
Oui, écoutez, ce que je déplore, c'est que une lecture simpliste de nos spiritualités, et je parle des spiritualités monothéistes, nous invite à transcender le réel, à dépasser le réel. Et ce sont des spiritualités hors sol, j'appelle cela des spiritualités hors sol. Il s'agit de tutoyer le divin en s'arrachant à sa réalité matérielle, s'arrachant à la beauté du monde, s'arrachant aux contingences matérielles du monde, à l'environnement. Et là, je crois que on fait fausse route. Il est vrai que il est nécessaire dans un premier temps, et c'est une propédeutique, une pédagogie du spirituel, de tutoyer le divin en essayant de transcender, dans un premier temps, son enveloppe corporelle et sa situation dans le monde. Mais c'est un premier temps. Le deuxième temps, c'est revenir au monde. Et alors, métamorphoser mon rapport au monde. Transfigurer ce rapport au monde. Et c'est le temps le plus important. Et un de mes maîtres, le Ravolbe, disait, concernant l'injonction dans le Deutéronome, voici, je t'ai donné la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie. Il posait la question, mais pourquoi est-ce que Dieu me dit de choisir la vie? Mais il m'a donné la vie. Il m'a donné la dimension la plus sublime de la vie. La liberté, la pensée. Il n'y a pas plus haut que la vie humaine. Et ça veut dire quoi, choisir la vie? Et là, le Rav, le maître, répondait, Dieu me demande de choisir la vie de la vie. L'âme de la vie, la racine de la vie, pas la survie.
Qui se traduit comment, cette âme de la vie, cette vie de la vie?
Alors bon, pour
comme tout à l'heure, vous parliez de l'intimité du monde.
Voilà.
Le terme était beau et poétique.
Voilà.
Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans cette écologie spirituelle ou dans cette spiritualité écologique? À la fois l'intimité du monde et l'âme de la vie et l'âme du monde, Marc-Raphaël Gage.
Je veux dire, à mon avis, c'est la même chose. Je veux dire, la vie de la vie, c'est l'intimité avec soi. La vie de la vie, c'est, je dis toujours, par exemple, étudier Torah, c'est exister plus. Un des maîtres contemporains, Ravoutner, disait, c'est intéressant parce que dans la vie, il y a le luxe et le nécessaire. Le nécessaire, le pain et l'eau, quand je manque de pain et d'eau, c'est une souffrance terrible. Quand j'ai le pain et l'eau, je ne danse pas de joie. Le luxe, quand je manque de luxe, c'est pas terrible. Quand j'ai quelque chose qui, une belle musique, un beau tableau, un bon parfum, je suis rempli de joie. Or, ce qui est intéressant, c'est que les maîtres de la Torah, ou les maîtres spirituels, en général, quand ils manquent de Torah, quand ils n'arrivent plus à étudier, quand ils n'arrivent plus à enseigner, on a l'impression qu'il leur manque tout. C'est une souffrance terrible. Et quand ils arrivent à étudier, à enseigner, ils sont dans une joie extraordinaire. Alors quoi, c'est du luxe ou c'est de la nécessité? Ça a les symptômes et du luxe et de la nécessité. Et le maître répondait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la vie. C'est tout simplement la vie. Imaginez quelqu'un qui va se noyer. Il sent qu'il a plus de respiration. C'est la souffrance la plus terrible. On le sort de l'eau, on lui applique une respiration artificielle. Il respire, c'est une joie extraordinaire. Eh bien, étudier Torah profondément, c'est respirer autrement. Et c'est ça que j'appelle la vie de la vie. C'est être capable de vivre la spiritualité comme une biologie intérieure. Une des plus belles bénédictions que nous faisons, c'est lorsqu'on voit un beau paysage, il est dit qu'on doit faire la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Oseh Maaseh Bereshit. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi du monde, qui renouvelle l'œuvre de la création, qui crée le monde à chaque instant. Quand je suis devant un beau paysage, j'ai l'impression d'assister à la création du monde. Et j'ai l'impression que le visage du monde rayonne d'invisibilité parce qu'il s'enracine dans l'invisible. Comme le visage de l'être aimé rayonne d'invisibilité. Et c'est ça que j'appelle la vie de la vie.
Chopin, Barenboim, Nocturne numéro 20. Que peut-on ajouter à ces notes sans amoindrir l'élévation à laquelle elles ouvrent ? Rabbin Marc-Raphaël Gedge, ces notes de musique.
Écoutez, on entend toujours avec son intériorité et puis son bagage intérieur, mais j'ai l'impression que Chopin écoute l'élan du monde, écoute la nostalgie vers l'infini, et que cet infini lui répond, il redescend vers lui. Et quand l'infini redescend vers l'homme, féconde l'homme, alors on est dans la joie. Et je ne sais pas si on a le temps, mais on demandait à Rabbi Nachman de Breslav quelle est la spécificité de la mystique juive. Et il répondait, nous sommes spécialistes dans la descente. C'est-à-dire apprendre à goûter à l'infini et l'accueillir pour qu'il féconde nos vies. Et j'entends cet élan vers l'infini et ce goût de l'infini qui féconde.
La musique n'est-elle pas quelque part une critique de la recherche d'un sens trop intellectuel, trop raisonnable ? La musique ne vient-elle pas dire que le sens est ailleurs, non pas dans le sens, dans la signification, mais dans les sens, les sensations et la sensibilité, quelque chose que l'on peut ressentir dans la méditation, par exemple, ce que vous venez de nous offrir avec ce ressenti mystique ? Ne faut-il pas tout simplement, comme vous venez de nous le proposer, un regard poétique sur le monde, défait de la pulsion de raisonnement, de compréhension et d'emprise ? Marc-Raphaël Gedge.
J'aime bien votre expression, la pulsion de raisonnement. J'ai en tête cette jolie phrase de Christa de Singer qui disait « Le sens de la vie, c'est simplement la vie ». C'est ce que nous disions quand nous parlions de « choisis la vie, choisis l'âme de la vie ». Les bouddhistes vous disent que la méditation, c'est quand tu marches, marche. Quand tu manges, mange. Quand tu travailles, travaille. En vérité, c'est être présent pleinement à ce que nous faisons. C'est ça l'essence. Et j'invite toujours mes amis juifs. Quand tu pries, prie. Quand tu mets tes phylactères le matin, mets-les vraiment. Respire avec, vis avec. Unis-toi à cela. Sois dedans. C'est en même temps le sens et l'essence. Il faut pas couper le sens d'essence. Et respirer, c'est spirituel. Voir un beau paysage, c'est spirituel. Aimer une femme, c'est spirituel. Ne pas déconnecter la spiritualité de la vie.
Sentir le souffle qui nous traverse et on le retrouve peut-être dans le rite. Le rite n'est-il pas ce moment très particulier où on fait l'expérience de ce souffle, de cette intimité du monde, de cette âme du monde ?
Je pense par exemple au chauffard. À Rosh Hashanah, on a l'habitude, Rosh Hashanah, donc c'est la tête de l'année, le nouvel an juif, on a pour coutume et pour rituel fondateur de sonner dans une corne de bélier appelée le chauffard. Et un des maîtres disait que ces sons, l'émission de ces sens, celui qui les émet, doit être très attentif à son souffle. Et je pense que ceux qui écoutent aussi doivent être attentifs à leur souffle. Et il met en relation cette attention au souffle à la prière que nous disons chaque matin. Elohai, mon Dieu, l'âme que tu m'as donnée est pure. Tu l'as créée, tu l'as formée, tu me l'as insufflée. Et ce maître disait, tout se passe comme si on devait avoir en mémoire le moment où notre âme nous fut insufflée. C'est très joli, mais comment y arriver ? Et j'ai pensé que, j'ai un peu pratiqué la méditation, je vous l'avais dit, et j'ai pensé que quand je suis attentif à mon souffle, quand je suis présent dans mon souffle, quand je me laisse traverser par mon souffle, à ce moment-là, il y a un moment où je peux ressentir qu'il y a un souffle qui anime mon souffle, que mon souffle n'est pas premier, qu'il est second, qu'il est animé. Et ce souffle qui anime le souffle humain, c'est la découverte de la spiritualité, du lien avec la transcendance. Et lorsque la transcendance visite l'immanence et lui donne vie. Et alors, Quand je suis sensible au souffle qui anime le souffle de l'homme, grâce au chauffard, je peux être sensible au souffle qui anime le souffle du monde. Et c'est très intéressant, parce qu'en hébreu chauffard, vous avez la racine de choufré, choufra, c'est-à-dire la beauté. C'est-à-dire que pour être sensible à la beauté, il te faut le chauffard. C'est-à-dire il te faut ressentir le souffle qui anime le souffle. Et là, vous avez de nouveau cette relation entre le rituel et le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après Rosh Hashanah et Kippour, qui est ce retour à soi, on sort dans la soukha, soukhot. La soukha, c'est une cabane, la fête des cabanes. Et la cabane, d'abord, ce qui est important dans la cabane, c'est le srar, c'est la toiture. Et la toiture doit être faite de végétaux, donc des éléments de la nature, mais on doit, à travers ces végétaux, voir le ciel. Tout se passe comme si on devait, à travers la nature, voir le ciel, voir la présence, ressentir la présence. Mais je ne peux ressentir la présence dans le monde que si j'ai travaillé mon souffle, que si j'ai fait ma teshuvah, si je suis revenu à ma source. Quand je reviens à ma source, alors je sors dans le monde et je sens la teshuvah du monde. Le monde aussi s'élance vers sa source. Le monde aussi veut retourner à sa source. Et la teshuvah du monde, le retour du monde à sa source, doit en même temps, ensuite, éveiller une teshuvah encore plus profonde chez l'homme. C'est ce qu'on fait à Hoshana Rabba, le dernier jour de Sukkot, où la teshuvah devient cosmique, où l'homme s'unit à la teshuvah cosmique du monde, au retour cosmique du monde. Et rentrer dans la soukha, c'est donc rentrer dans cette présence. Mais les maîtres nous disent, à la limite, on pourrait faire une soukha avec quatre poteaux, une toiture, des branches, le ciel, surtout dans les pays chauds, qui a besoin de murs. Non, il faut des murs. Ah bon, il faut des murs, très bien. Combien? Alors ils vous disent, il faut deux murs et un pan de mur. Et c'est exactement l'image de l'étreinte. Quand vous voyez une étreinte, vous avez l'avant-bras, le bras et la main qui se replient. C'est-à-dire rentrer dans la soukha, c'est rentrer dans l'étreinte de Dieu. Parce qu'il faut faire attention. Ressentir la présence dans le monde, s'unifier au monde, risque de susciter des formes de panthéisme, de dissolution de la personnalité spirituelle de l'homme dans les forces du monde. Et on vous dit non.
Une forme d'animisme.
Une forme d'animisme. Et là, on vous dit, rentre, baigne dans cette présence, à condition d'être dans l'étreinte. Mais en vérité, la soukha m'enseigne comment être au monde. Ce n'est pas simplement un rituel qu'on doit faire quelques jours dans l'année. Ce rituel est enseignant sur la situation de l'homme dans le monde. Mais cette situation de l'homme dans le monde, elle prend sa source dans le chauffard, dans le souffle qui anime le souffle de l'homme. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que il me semble important de déritualiser le rituel et de le mondaniser, qu'il soit un vecteur, une orientation, un sens, on parlait du sens, et qui nous donne qui nous permette de goûter le goût du monde, à la limite, de sentir.
Rappelez qu'en hébreu, le mot sens, avoir du sens, c'est le même mot que le mot
ta'am,
goût.
Le goût, exactement. On parle souvent des ta'ameh ha-mitzvot, et on traduit souvent par les raisons des mitzvot, comme si un commandement a une seule raison. Et en vérité, la traduction, c'est les goûts des mitzvot. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les mitzvot, c'est comme la manne. Chacun peut goûter la manne qui tombe, cet aliment qui tombait dans le désert, pour les enfants d'Israël. Chacun donnait son goût. Chacun avait un goût subjectif. Et il s'agit donc de goûter les choses, de goûter la vie, de goûter le monde, mais grâce au rituel. Et le rituel, alors, nous ouvre à une dimension qui, à travers le religieux, transcende le religieux. C'est cette transcendance du religieux, tout en respectant le religieux, qui est intéressante.
Alors, votre méditation concerne, dans la façon dont vous le présentez, des personnes qui sont croyantes, puisque vous parlez de Dieu, de l'étreinte de Dieu. Moi, j'aurais pu parler, ou je pensais qu'à un certain moment, vous allez parler de l'étreinte de l'homme pour la femme, ou inversement. Comment vous adressez la même chose aux personnes qui sont ni dans la tradition juive, ni dans le rite, ni dans la religion, Marc-Raphaël Gage?
Oui, il ne s'agit pas de déconvertir. Et ouais, vous me faites penser au Shir HaShirim, au Cantique des Cantiques. Et le Cantique des Cantiques, c'est un chant d'amour entre un homme et une femme. Et puis les rabbins nous disent que ça n'est pas que ça. c'est un chant d'amour entre l'humanité et l'Éternel, ou entre l'Assemblée d'Israël et Dieu. Alors c'est ça ou ça? En vérité, c'est les deux. En vérité, le Sfatemej, pour citer toujours le même grand maître, disait « Pourquoi appeler cela « Shir Hashirim » ? Admettons que ce soit le chant qui unit l'homme à son créateur, admettons-le. Alors pourquoi ne s'est pas appelé chant, tout simplement ? Il disait « Ce chant de l'homme à son créateur, c'est ce chant qui émane de tous les chants du monde. J'ai besoin de tous les chants du monde pour chanter ce chant. » C'est-à-dire que ce chant, c'est le point d'orgue de tous les chants du monde. C'est-à-dire, si je n'ai jamais aimé quelqu'un, je ne peux pas aimer le divin. Appelez-le Dieu, le divin, la source du monde, la vie du monde. Appelez-le comme vous voulez. Mais j'ai besoin de tous les chants du monde. J'ai besoin d'avoir aimé vraiment quelqu'un, d'avoir aimé la beauté du monde, de l'avoir senti comme une bénédiction, pour pouvoir vraiment aimer et être sensible au divin, à ce frémissement qui traverse le monde. Et quand je suis arrivé à l'amour du divin, alors quand je reviens à l'amour humain est transfiguré. Ça n'est plus que du pulsionnel, ça n'est plus que du passionnel, mais ça devient la rencontre avec un visage rayonnant d'invisibilité.
Marc-Raphaël Gage, tout ce que vous venez de nous dire pendant cette émission me fait penser à ce que raconte Boris Cyrulnik dans son livre « Parler d'amour au bord du gouffre ». Il raconte qu'en se rendant à Chartres, Charles Péguy voit sur le bord de la route un homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet. Son visage exprime le malheur et ses gestes la rage. Péguy s'arrête et demande « Monsieur, que faites-vous ? » « Vous voyez bien, lui répond l'homme, je n'ai trouvé que ce métier stupide et douloureux. » Un peu plus loin, Péguy aperçoit un autre homme qui lui aussi casse des cailloux, mais son visage est calme et ses gestes harmonieux. « Que faites-vous, monsieur ? » lui demande Péguy. « Eh bien, je gagne ma vie avec ce métier fatigant, mais qui a l'avantage d'être en plein air. » Plus loin, un troisième casseur de cailloux irradie de bonheur. Il sourit en abattant la masse et regarde avec plaisir les éclats de pierre. « Que faites-vous ? » lui demande Péguy. « Moi, répond l'homme, je bâtis une cathédrale. » Et n'est-ce pas précisément cette manière dont vous avez envisagé cette façon d'investir le monde de signification, Marc-Raphaël Gage?
Alors, je ne sais pas s'il faut bâtir des cathédrales ou rencontrer la cathédrale intérieure qui est dans le monde.
Merci Marc-Raphaël Gage pour cette promenade dans le jardin du sens. Oui, décidément, comme le disait Ricoeur, nous découvrons à quel point ce dont manquent le plus les hommes, c'est de justice certes, d'amour sûrement, mais plus encore de signification. Et je pense, en tout cas je l'espère, que notre conversation d'aujourd'hui, avec toute sa poésie, sa spiritualité, a ouvert quelques belles perspectives. Ce fut un réel plaisir de partager ces deux émissions avec vous, et je vous souhaite, ainsi qu'à votre fondation Racines et Sources, de continuer à nous offrir ces beaux dialogues entre le souffle et les étoiles. Merci encore Marc-Raphaël Gage.
Merci Marc-Alain pour cette belle occasion qui m'a été donnée de partager avec vous et avec les auditeurs.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Valérie Lavalla, à la réalisation comme toujours d'Annie Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de Marc-Raphaël Gage sur le site France Culture à l'onglet Talmudique. Koltouv, le Itraot, au revoir, bon réveillon et bonne fête de Noël, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.